Accès libre.
Question de la semaine, les personnes handicapées pourraient-elles voir leurs droits mieux reconnus en devenant une force économique ? Pourrait-on réussir ce que les personnes homosexuelles ont accompli avec l'argent rose ?
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Population vulnérable. Le gouvernement du Canada, comme énoncé avant de parler de ses politiques, est pas mal clair dans ce qu'on pourrait entendre par « population vulnérable ». Je le cite. « Nous savons que l'environnement peut avoir un effet sur la santé. Nous savons aussi qu'au Canada, certaines populations ou groupes de personnes sont plus vulnérables aux risques présents dans l'environnement en raison de leurs particularités physiques, de leur comportement, du lieu où elles et ils habitent ou du contrôle qu'elles exercent sur leur environnement. Le site, par exemple, de Santé Canada cite maintenant des populations qui pourraient être plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les femmes enceintes, les autochtones, les aînés, on peut lire plus loin aussi les personnes handicapées. C'est une manière de décrire ce qui pourrait être une population vulnérable, mais c'est pas mal lié à la santé. On pourrait peut-être relire les droits maintenant, puisque tous les citoyens sont égaux en droit. Regardons de plus près la Charte des droits et libertés du Québec, et même son article 48, où on sous-entend ce qui pourrait être une personne vulnérable. En effet, on y lit « Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. » Alors peut-être que les personnes vulnérables, j'ajouterais, c'est les gens qui sont susceptibles d'être exploités plus facilement. Mais regardons en pleine face la population et à partir de l'enquête québécoise sur les limitations d'activité, les maladies au Québec. On serait très étonné de voir que cette enquête souligne que une personne sur trois, 33,3% de la population, présente des incapacités. Donc, ça ressemble à quoi de plus proche? Une grande diversité. 4,6% de la population déclare avoir une déficience visuelle, donc d'un petit détail qu'elle ne peut voir jusqu'à ne pas voir du tout. 13,2% de la population déclare avoir une déficience motrice, donc peut-être à se déplacer. 1% de la population déclare avoir une déficience intellectuelle. Et si on rajoute à ça une personne sur sept a l'arthrite ou une forme d'arthrite, une sur trois aura un cancer, enfin, j'arrête là, c'est pas mal de monde qui sont différents et qui vont vivre dans un contexte qui les vulnérabilise. Alors, ce que je vous propose, plutôt de se dire qu'il y a un vulnérable ou une vulnérable de service, pourquoi on ne se fait pas une société pour qu'on soit bien le temps qu'on sera vulnérable?
Question de la semaine. Les personnes handicapées pourraient-elles voir leurs droits mieux reconnus en devenant une force économique? Pourrait-on réussir ce que les personnes homosexuelles ont accompli avec l'argent rose?
Et c'est la question du jour. Évidemment, c'est droits économiques qu'on cherche à faire valoir. Mais bien sûr, il existe des organismes de défense de droits qui, eux, défendent les droits tout azimuts et surtout quand il est question de bâtiments. Alors, on a avec nous Véronique Vézina, présidente du conseil d'administration de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN. Bonjour, Mme Vézina.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous avez réagi en janvier dernier sur un projet de loi qui annonçait pas vraiment ses couleurs, je dirais, parce que tout le monde se demandait s'il allait avoir des questions concernant les personnes en situation de handicap, et finalement, il y en avait. Donc, on parle ici de la loi 155, pour la présenter comme du monde, loi modifiant le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec. Alors, vous avez réagi, vous comme vice-présidente, plutôt présidente de la COFAN. Comment vous réagissez à ça?
Bien, nous, quand on a lu le projet de loi, on ne savait pas trop au départ si on devait y réagir parce que c'est un projet de loi qui vient modifier une autre loi. Mm-hmm. Et lorsqu'on a réalisé qu'on introduisait un nouveau mandat à la Société d'habitation du Québec, on a jugé nécessaire de réagir puisque le nouveau mandat qui était donné à la régie, la société, concernait l'accessibilité des places d'affaires et des commerces.
Voilà. Et vous l'avez dit
vous-même. Projet de loi qui était en lien avec le budget là, qui avait été annoncé en 2017-2018 pour un programme qui viendrait financer cette accessibilité-là.
Donc, pour qu'on en parle clairement, il y a un an, dans le budget, on disait qu'il y avait de l'argent pour la mise en accessibilité qui allait être géré par la SHQ. Est-ce que c'est un peu nouveau, ça, que la SHQ se mêle comme ça d'accessibilité des bâtiments?
Bien, en fait, ce que disait le budget en 2017-2018, c'est qu'il y aurait un 8 millions qui serait un nouveau programme qui serait mis en place qui octroierait 8 millions dans les 5 prochaines années pour améliorer l'accessibilité des places d'affaires et des petits commerces.
OK.
Ce qui était nouveau dans le projet de loi, c'est qu'on savait pas qui allait gérer à l'époque ce programme-là. Mm-hmm. Et là, on introduisait ce mandat-là à la SHQ. Mm-hmm. Il faut savoir que le mandat de la SHQ concerne l'habitation.
Oui.
Et non pas tout ce qui concerne les établissements autres que le milieu résidentiel.
C'est ça.
Donc, c'est ça qui était modifié par le programme. Mais par le projet de loi, par contre, le programme était la seule responsabilité qu'on venait donner à la SHQ. On ne modifiait pas l'ensemble de son mandat pour qu'il soit en mesure d'aussi agir au niveau de l'accessibilité des commerces et des places d'affaires. On venait juste lui donner la responsabilité de gérer un programme, ce qui pour nous était aberrant parce qu'on ne peut pas donner une seule responsabilité à la société d'habitation pour assurer l'accessibilité des commerces. Je pense qu'il faut qu'il y ait l'ensemble des responsabilités qui soient données aux gestionnaires du programme.
Ben oui, bien sûr. Mais il faut peut-être dire aux gens aussi qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre. C'est qu'en fait, quand il y a des édifices où il y a des logements puis un commerce au premier étage, là, il y a une obligation, dans le cadre du bâtiment, de le rendre accessible. C'est un peu ça, hein?
Actuellement, c'est comme ça, mais pour les endroits où il n'y a pas d'habitation ou de logement connexe, c'est pas le cas.
OK. Donc, c'est peut-être stratégiquement pour ça qu'ils ont voulu lancer la POC à la SHQ, parce qu'ils c'est un des acteurs dans la mise en accessibilité des commerces.
Bien, ça devient un des acteurs parce que ça ne l'était pas jusqu'à présent.
OK. Pensez-vous que la SHQ est bien outillée pour gérer ce programme-là?
Actuellement, non, parce qu'on n'est pas en mesure de savoir si on va lui donner l'ensemble du soutien pour le faire. Est-ce qu'il va venir, il va avoir un soutien financier, un soutien matériel, un soutien financier, un soutien matériel, un soutien en ressources humaines aussi qui va venir avec la gestion du programme. On n'a pas encore eu de réponse à cette question-là.
Donc, on ne sait pas combien ça va coûter au-delà
donner la gestion sans donner l'ensemble des outils, ça nous semble difficile.
En fait, sans vouloir changer de chapeau deux instants, pour avoir souvent eu à gérer des recours, je dirais, ou des questionnements à l'endroit de la SHQ, j'ai pas souvent trouvé qu'il y avait de l'ouverture, je vous dirais, à déroger des critères pour aller au-delà du code du bâtiment. Est-ce vous vous demandez qu'on aille une petite affaire plus loin, là?
Bien, nous, on demande à ce que le projet de loi aille plus loin. Au lieu de donner à la SHQ uniquement la responsabilité de gérer le programme, d'introduire dans le mandat de la SHQ l'obligation de se préoccuper de l'accessibilité des commerces et des places d'affaires, donc de l'ensemble des établissements.
Bon, parfait. Petite technicalité dans le mémoire, vous dites quelque chose de pas précis. Le gouvernement parle d'établissement, mais moi, quelqu'un qui entend souvent la santé, établissement, on dirait que c'est des CHSLD, c'est des endroits de santé. C'est quoi l'établissement pour le gouvernement?
On a posé la question au ministre qui était responsable à la commission. Et celui-ci nous a référé à la ministério, il a envoyé nos questions et on n'a toujours pas reçu de réponse, mais il s'est engagé à nous revenir avec une réponse à cette question-là.
Bon, et d'ici là, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Parce que on le sait, l'habitation, c'est pas encore accessible, c'est très peu souvent accessible, adaptable. Qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour vous aider, à vous, de la COFAN?
Bien, pour aider c'est pas pour aider la COFAN. Moi, je
bien, toutes les personnes en situation
de handicap.
Pour aider
les personnes qui ont des limitations. Il y a bien sûr cette modification législative-là qui est en cours, mais nous, on a aussi proposé, puisqu'on révisait certains articles de la fiscalité municipale, on a aussi proposé que lorsqu'il y a des évaluations du rôle municipal, que ce soit les établissements ou les habitations, il y a toujours des inspecteurs qui vont sur place. Pour évaluer certains aspects du milieu, que ce soit un commerce ou une habitation. Donc, on a proposé dans notre mémoire que la personne qui vient évaluer lors du rôle municipal regarde aussi certains aspects de l'accessibilité pour qu'on puisse avoir un portrait plus réel de qu'est-ce qui est accessible tant au niveau des commerces que de l'habitation, ce qui nous permettrait au minimum d'avoir un portrait qui est mis à jour aux deux ans.
Bien sûr. Puis ça fait vraiment défaut. On n'a pas d'idée du portrait d'ensemble, de l'accessibilité de tous les édifices.
On n'a aucune idée ou on a une idée très partielle. Puis c'est une suggestion qui nous semble peu coûteuse puisque l'évaluation est déjà faite. Il faut juste ajouter quelques critères et puis ça nous permettrait d'avoir un meilleur portrait. Puis il faut savoir aussi qu'il y a d'autres travaux qui sont en cours actuellement. Il ne faut pas tout miser sur le programme qui devrait éventuellement être géré par la SHQ, mais il y a d'autres travaux qui sont en cours puis sur lesquels le gouvernement devrait devrait agir rapidement. Je pense entre autres à l'adoption du règlement pour les immeubles qui sont bâtis avant 1976. On l'a encore souligné en 78, lorsque la première loi pour assurer l'exercice des droits des personnes handicapées avait été adoptée, on prévoyait déjà de modifier la réglementation pour permettre une meilleure accessibilité aux bâtiments construits avant 1976. On est bientôt 40 ans plus tard et ce règlement-là n'a toujours pas été adopté, alors qu'en 2004, il y avait un engagement dans la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées qui prévoyait que ce règlement-là soit adopté avant 2007.
Et donc, c'est urgent. Il faut absolument, presque 10 ans plus tard, remédier à la situation. Écoutez, on continue de surveiller vos dossiers. COFHAN.org. Véronique Vézina, présidente du conseil d'administration de la COFHAN, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, au revoir.
Bientôt, c'est-à-dire, on le retrouve là dans deux instants, un colloque va se tenir sur les entreprises en économie sociale, santé mentale et travail. C'est assez intriguant tout ça, mais c'est de plus en plus commun de parler de ces manières d'aménager, d'adapter le travail pour la grande variété de problèmes ou disons de défis de santé mentale. Donc, avec nous, Marc Corbière, qui est professeur à l'UQAM, qui est chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, où se tient ce court colloque. Bonjour, M. Corbière.
Bonjour, M. Rasset.
Merci d'être avec nous. Alors, vous, tous les jours, vous cherchez à mieux comprendre à partir de données comment se vit les carrières, disons, sous le jour de la santé mentale. On peut dire ça?
D'une certaine façon, oui, on peut dire ça.
Okay.
Oui, en fait, je m'intéresse à l'intégration, réintégration des personnes avec un trouble mental, courant ou grave. Alors, courant, ça peut être dépression. Plus sévère, c'est des personnes qui sont atteintes de schizophrénie, par exemple, et qui présentent une contrainte sévère à l'emploi.
Et donc, ces personnes-là qui ont des contraintes sévères à l'emploi, qui soient temporairement, disons, handicapées de par leur santé mentale ou de manière plus grave, il faut repenser le milieu de travail.
Oui, c'est ça.
Pour répondre à leurs besoins.
Oui, alors justement, en fait, il y a une alternative pour les personnes avec un trouble mental plus sévère qui est l'entreprise d'économie sociale. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise à but non lucratif et qui est créée pour répondre à des besoins sociaux pour des personnes qui sont plus vulnérables, telles que des personnes avec des contraintes sévères à l'emploi. Mm-hmm. Dans ces entreprises, on trouve en général au moins 25% des employés avec ce type d'incapacité au travail dans laquelle, en fait, on essaie de trouver des solutions innovantes pour contrer l'exclusion sociale de ces personnes. Voilà.
En parlant de situation, ou plutôt d'innovation, vous évoquez entre autres un système de coopération sociale qui est très populaire en Italie, qui permet l'intégration de personnes qui ont des maladies graves en santé mentale.
Oui. Mais en fait, maladie plus ou moins grave, ça peut être déficit intellectuel, déficience intellectuelle, pardon. Ça peut être des personnes qui ont des difficultés au niveau sensoriel, physique, mental. Donc, vous voyez, ça touche en fait toutes sortes de populations. En effet, l'entreprise d'économie sociale, le berceau de l'économie sociale, en fait, est l'Italie, le nord de l'Italie. Mm-hmm. À la suite de la désinstitutionnalisation des soins psychiatriques dans la communauté, des coopératives ont été implémentées dans le nord de l'Italie pour justement contrer, comment je pourrais dire ça, pour permettre à ces personnes-là d'avoir une activité professionnelle. Voilà. Mmh.
Donc, les premières entreprises adaptées, entre guillemets, ont d'abord servi les personnes qui sortaient des institutions psychiatriques en Italie.
Oui, tout à fait.
Ce qui n'est pas exactement le cas au Québec. Hein. Souvent, c'était peut-être plus les personnes handicapées, plus classiquement.
Oui, tout à fait.
Bon. Et dans quelle province vous avez observé, au-delà de l'Italie, là, la progression, où vous avez fait des observations, puis quel constat vous avez tiré?
Alors, dans le cadre de ce colloque qui va avoir lieu le 7 février là, à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l'objectif, c'est de présenter les résultats d'une étude qui a été financée par les instituts de recherche en santé du Canada et qui porte sur, justement, le maintien en emploi et la productivité au travail des personnes avec un trouble mental œuvrant dans une entreprise d'économie sociale. Mmh. Et ce, dans deux provinces canadiennes, au Québec et en Ontario. Ah. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer deux modèles d'entreprises d'économie sociale. Ici, au Québec, l'entreprise adaptée, qui est assez connue, et dans laquelle on trouve en général au moins 60% des personnes avec une difficulté, une contrainte sévère à l'emploi, donc pas nécessairement juste des personnes avec un trouble mental, mais avec d'autres problématiques. Mm-hmm. Mais dans ce projet, nous, on s'intéressait exclusivement aux personnes avec un trouble mental.
Okay.
Et en Ontario, on a le modèle du Survivor-Run Businesses, qui est en fait une entreprise d'économie sociale dans laquelle on trouve 100% des personnes avec un trouble mental.
Ah oui.
C'est-à-dire, en fait, du plancher à la direction de l'entreprise, ce sont des personnes avec un trouble mental qui font fructifier cette entreprise.
Puis vous trouvez qu'un milieu, disons, plutôt, j'exagère quand je dis ségrégué, là, mais vous comprenez ce que je veux dire,
un
milieu aussi ségrégué, ça fonctionne bien au niveau de l'intégration au travail?
Vous avez raison. C'est c'est une critique qui est à l'endroit des entreprises d'économie sociale, en tout cas ce type-là, tout simplement parce que en effet, on pourrait percevoir cela comme un ghetto, où en fait, on rassemble les personnes avec des difficultés dans une seule entreprise.
Ouais.
Mais on a réalisé que de nombreuses personnes avec une difficulté ou une incapacité au travail avaient du mal à se maintenir en emploi sur le marché du travail ordinaire.
Je comprends.
Donc ça peut être une alternative intéressante pour ces personnes. D'ailleurs, quand je leur pose la question directement à des employés avec un trouble mental qui œuvrent dans une entreprise d'économie sociale, ils me disent « ben moi, je suis bien, là, j'ai l'intention d'y rester, je me sens bien, c'est comme une famille, il y a plusieurs aménagements de travail qui me permettent de réaliser le travail à la vitesse que je souhaite, etc. »
Ben, donc, c'est intéressant que vous l'apportiez comme point de vue. Parfois, c'est des espaces peut-être plus sécuritaires pour ces personnes-là qui n'ont pas besoin d'expliquer toute leur situation à des gens qui auraient vécu quelque chose de différent. Écoutez, c'est un des points de vue dont on parlera au colloque que vous proposez.
Oui.
Si on veut avoir plus d'informations, on vous rejoint simplement.
Oui, alors, vous pouvez aller sur notre site, c'est www.santémentaltravail.ca.
Donc, on en prend note et surtout, on le met sur canalem.vuesetvoix.com pour que les gens puissent y aller. Merci beaucoup, Marc Courbière, professeur à l'UQAM et chercheur dans le cadre notamment de ce colloque sur l'entreprise économie sociale, santé mentale. Merci beaucoup, M. Courbière.
Merci, au revoir et bonne journée.
Bonne journée. Avec nous, Vincent François, pour nous parler non seulement de ces machines qu'on rend plus accessibles, mais surtout les gens derrière. Bonjour, Vincent François.
Bonjour.
Bonjour. Alors, rappelons que vous êtes expert en accessibilité numérique. Et c'est quoi les métiers du numérique au-delà de l'ordinateur méconnu?
Au-delà de l'ordinateur?
Oui.
au-delà des métiers, voilà, de l'ordinateur, au-delà de l'ordinateur, les métiers méconnus, c'est quoi, Vincent François?
Ben, disons que ce qui est méconnu, c'est que on est différencié. C'est que le numérique est rentré dans nos vies partout, à peu près dans tous les métiers.
Oui.
Je pense même que l'agriculteur est rempli de numérique.
Oui.
Et ce qui fait qu'on a on a du mal. C'est vrai qu'on est assez vieux pour se souvenir qu'à une époque, la notion de numérique était une nouveauté et une originalité.
Ben oui.
Je me souviens quand j'essayais de choisir des études, mais aujourd'hui, c'est partout. Et du coup, puisque c'est partout, ça touche tout le monde.
Mmh.
Et on a besoin de s'assurer que pour que ça touche tout le monde, ça soit accessible pour tout le monde.
Bien sûr. Et donc, il y a des métiers qui sont dessinés avec le temps, pas juste des agriculteurs ou des humoristes devenus animateurs. c'est quoi ces métiers du numérique, cher Vincent François?
Les métiers particuliers?
Oui, voilà.
Je suis un peu perdu.
Ah oh, non!
On parlait d'apprentissage du braille.
Non, oh, oui, vous, écoutez. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut devenir expert en accessibilité numérique. Puis,
oui.
Je sais que vous voulez éventuellement parler du braille, mais je croyais que vous alliez énumérer deux, trois types d'experts qu'on peut retrouver en accessibilité numérique. Là.
Ah, du côté accessibilité. Ben, en fait, on rentre dans le métier de l'accessibilité de deux façons différentes, à mon avis, peut-être trois. La première, c'est l'idée, et ça a été la mienne, c'est de dire on fait de la qualité pour s'assurer que tout le monde soit en mesure d'utiliser, de percevoir, de comprendre ce qu'il y a sur le monde numérique. Et donc, c'est une démarche de qualité. On fait notre job bien et on s'assure d'inclure tout le monde. Et puis, l'autre approche, c'est celle qui consiste à partir des gens, partir des gens eux-mêmes, et se dire, voilà, on est des êtres humains à part entière, on veut communiquer, on passe à travers ces plateformes, et qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, on se retrouve à ce moment-là à travailler parmi les experts d'accessibilité numérique, soit sur des aspects extrêmement techniques, ça marche pas, soit sur les aspects d'accompagnement des personnes, de les aider à utiliser leurs outils d'adaptation, et à ce moment-là, à rentrer dans la technique parce qu'on est confronté à tel ou tel problème, n'étant pas expert technique au départ.
Écoutez, il faut quand même que je dise, Vincent François, on est actuellement sur la chronique de « Dans un mois ». D'habitude, il ne faut pas le dire, mais là, je le dis parce que c'est trop drôle. En terminant, là... c'est qui les employeurs, à part vous, parce que vous travaillez dans le domaine, c'est qui peut nous employer comme personne qui travaille dans le numérique? Vitement.
Pour faire de l'accessibilité?
Oui.
On n'est pas très nombreux. Moi, je ne recrute pas parce que le marché n'est pas très grand. Par contre, on est de plus en plus souvent à travailler aux États-Unis parce que là, il y a eu comme un écosystème qui est poussé par le droit, qui est poussé par l'avidité de certains avocats, mais qui permet d'avancer. Et puis aussi, les marchés américains étant souvent beaucoup plus gros, les entreprises investissent plus facilement. D'un côté, elles ont peur d'un bâton, et de l'autre côté, elles sont prêtes à investir parce qu'elles savent que les dépenses qu'elles feront se répercutent sur un plus grand bâton.
Je comprends tout à fait. Donc, Vincent François, vous le dites, la loi aide à davantage de mise en accessibilité numérique. Merci beaucoup.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Au moins es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Mmh. Oh, 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 oh. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe.
Question de la semaine. Les personnes handicapées pourraient-elles voir leurs droits mieux reconnus en devenant une force économique? Pourrait-on réussir ce que les personnes homosexuelles ont accompli avec l'argent rose?
Et répondez à la question. N'oubliez pas, vous pouvez le faire sur canalm.vusezvoix.com, sur les réseaux sociaux. C'est une question intéressante parce que très souvent, on fait valoir les droits, puis c'est plus, avouons-le, des groupes de gauche qui ont tendance à porter ces revendications-là. Mais il y a du monde à table qui travaille autrement, avec quelque chose qui a les mêmes visées. Puis, je vous dirais en aparté, moi, vous savez que je suis un gars pas mal à gauche, mais c'est trois personnes moins à gauche. Et en général, j'ai beaucoup de plaisir à jaser avec eux. Donc, on commence d'abord, est avec nous Guillaume Parent, président de Finhandicap, qui est aussi conseiller en sécurité financière. Rappelons qu'il a étudié dans ce domaine de l'administration. Hein, c'est pas un travailleur social comme beaucoup de gens qui défendent les droits d'habitude. Ou proches! Bonjour, Guillaume.
Bonjour, ça va bien.
Oui, ça va bien, merci d'être là. Au téléphone avec nous, Marc-André Laurier-Thibault, qui a déjà fait de la défense de droit, mais qui est maintenant étudiant au HEC Montréal, qui est aussi motivateur, qui propose des conférences, notamment. Alors, bonjour, Marc-André Laurier-Thibault. Ah, il est tout juste en ligne. Bonjour, Marc-André.
Bonjour.
Bonjour, content que vous soyez avec nous par la voix des ondes. Ou plutôt, je pense que c'est rendu souterrain le téléphone, hein? Je sais pas. Enfin, bonjour Marc-André.
Bonjour.
Et sera avec nous un peu plus tard Julien Racicot. Donc, je m'adresse à vous deux en premier. Je vous pose la question, mais avant, j'aimerais regarder dans votre histoire comment vous faites avancer les droits de part et d'autre. Tu permets, Guillaume, je commencerai avec Marc-André. Donc, Marc-André, les conférences que vous proposez sont beaucoup du côté, j'oserais dire, du positif. Est-ce que vous définissez comme conférencier? Est-ce que vous souhaitez continuer dans cette voie d'avenir-là?
Bien, écoutez, il m'arrive d'en faire à l'occasion, mais c'est sûr qu'il y a eu une période de ma vie où j'en ai fait beaucoup.
Oui.
Je ne faisais que ça, j'étais entrepreneur. Mais présentement, je suis en train de terminer mon baccalauréat aux études commerciales, HEC Montréal.
Oui.
Donc, c'est vraiment là où je mets mes énergies présentement pour éventuellement travailler dans les relations de travail, entre autres. Mais c'était pas très loin, les conférences, puis ce que je fais maintenant. En fait, je suis un communicateur, puis je pense bien utiliser mes forces, mes capacités. Puis ça sert à faire avancer des choses, puis à inspirer des gens.
Mm-hmm.
Ce que j'ai toujours fait, puis c'est ce que je continue à faire.
Bien sûr. Puis quand vous parlez de relations de travail, est-ce que vous espérez favoriser l'inclusion au travail des personnes handicapées, ou c'est pas exactement ça le mandat que vous vous donnez?
Ben moi, écoute, je suis un fort partisan de l'inclusion des personnes handicapées au travail. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui se font actuellement.
Mm-hmm.
Quand on sait quand même l'Office des personnes handicapées du Québec ne remplit pas son quota, il y a des politiques d'embauche qui sont faites dans des multiples entreprises pour l'intégration des personnes handicapées,
mm-hmm.
ben ils n'arrivent pas à couvrir leur quota.
Mm-hmm.
Moi, je trouve ça inacceptable, puis je pense qu'il y aurait lieu de se poser des questions puis de réévaluer certaines choses,
mm-hmm.
pour faire en sorte qu'on reconnaisse notamment des compétences puis pas simplement des diplômes, mais tant mieux si on a les deux. Mais je comprends que pour exercer un travail, il faut avoir d'abord et avant tout des compétences.
Mm-hmm. Mais ceci dit, au-delà des compétences, même les gens qui sont diplômés ont quand même beaucoup de difficultés à trouver un travail. Puis vous le dites, dans l'État, on a des cibles, puis on ne les atteint pas. Donc, est-ce que vous voulez travailler concrètement dans ce secteur-là? Est-ce que vous voulez gérer des ressources humaines ou travailler à promouvoir le droit au travail, ou les deux?
Bien, écoutez, moi, mon objectif présentement, ce serait soit de travailler pour une centrale syndicale, donc conseiller syndical à titre de conseiller aux relations de travail, ou bien je pourrais aussi me retrouver du côté patronal pour une municipalité, par exemple,
mm-hmm.
puis travailler au niveau des relations de travail. C'est mon objectif actuel, mais on ne sait pas où l'avenir m'amènera.
Ouais.
Mais je ne vois pas de poste actuellement qui me permettrait nécessairement de pouvoir défendre la cause spécifiquement des personnes handicapées de cette façon-là.
Mm-hmm. Bon, parfait. On va vous poser quelques questions. Ensuite, vous irez tout le monde dans la mêlée, mais je me retourne vers Guillaume Parent qui est avec nous en studio. Rappelons que vous avez fondé un cabinet conseil en sécurité financière, Guillaume Parent. Est-ce que ça a toujours été ça, votre cheval de bataille, d'améliorer les conditions, je dirais, économiques des personnes?
Ben oui, mon but en fondant ça, c'était de diminuer la pauvreté chez les personnes handicapées,
oui.
S'affranchir un peu tranquillement de services de l'État.
Oui.
Donc, et rapidement, dans ma pratique et dans la pratique de mon équipe, on a vu en côtoyant et en conseillant des familles que les droits qu'ils ont, ben souvent ils les connaissent pas,
mm-hmm.
ou ils les font pas valoir.
Ouais.
Donc une façon de faire pour nous, ben c'est de les aiguiller vers les bonnes places.
Et puis c'est les aiguiller peut-être aussi vers une ressource méconnue que vous avez contribué à promouvoir beaucoup, c'est-à-dire
REI, donc oui, le REI va amener un un pouvoir économique à la communauté des personnes handicapées en subventionnant le revenu financier à une hauteur importante.
Rappelons d'ailleurs.
C'est aussi en connaissant des lois qui ont trait au portefeuille des gens comme l'aide sociale, comme. Et qu'on arrive à voir, dans le fond, des situations qui, où les droits sont périmés.
Et donc, ça va au-delà d'un placement financier, là, c'est même les revenus d'aujourd'hui sur lesquels il faut travailler.
Les revenus d'aujourd'hui, c'est la structure successorale. Un gros pan du pouvoir économique futur des personnes handicapées, c'est qu'ils vont. On va hériter un jour de nos parents. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes, c'est la solidarité sociale qui pense qu'ils ne peuvent pas hériter.
Ouais.
C'est faux. Donc, c'est en sensibilisant les familles, mais aussi les notaires, qu'on arrive à changer la culture.
Donc, il faut effectivement réapprendre à apprivoiser l'argent, hein, si on peut dire, parce que très souvent, on pense aux personnes en situation de handicap comme des demandeurs de services, puis c'est peut-être ce que vous essayez de faire.
On est des demandeurs. On est des demandeurs de services.
Ouais.
Et plus notre actif, plus nos moyens vont être là. Ben plus. Quand il y a une demande, il y a une offre.
Ouais.
Donc, économiquement, c'est sûr que dans 10, 20, 30 ans, si les gens héritent, si les gens ouvrent un RRI, il va y avoir une offre. De soins, de services sociaux privés. Donc, c'est inévitable avec le réseau qu'on connaît maintenant. Puis tous les baby-boomers qui vont
prendre leur retraite.
Donc, on est dans cette tendance-là.
Ben, en fait, ce que vous faites comme constat, ce que j'entends, Guillaume, c'est que les ressources de l'État, on nous dit qu'elles sont limitées. Bon, je suis pas très souvent d'accord avec ça, mais faisons quand même le constat qu'il n'y a pas tant de programmes que ça en ce moment.
La croissance économique est limitée.
Voilà.
Le potentiel est limité.
Mais de toute façon, peu importe si on est d'accord ou pas avec comment l'État gère nos programmes, il reste quand même que les personnes ont moins de services qu'il y en avait ou doivent débourser davantage pour leurs services.
Exactement.
C'est ça le constat.
On aide les gens à faire un budget, à prévoir le budget, comment ça va coûter leur futur. Puis l'écart est tellement grand qu'il faudrait que l'État tripe sur son offre de service. Ce qui n'a pas de bon sens.
OK. Donc, c'est ce qu'on pose, mais je poserai la question tabou à vous deux. N'hésitez pas à répondre, Marc-André Laurier-Thibault.
Oui.
Parce que je vous ai classé un peu plus à droite. Je ne sais pas si c'est exagéré. Est-ce que je fais faux bond quand je dis Marc-André Laurier-Thibault puis Guillaume Parent que vous êtes davantage à droite comme activiste, je dirais?
Moi, je te dirais à droite, à gauche, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est un concept que tout le monde emploie. Moi, je me considère à gauche dans plusieurs choses, mais c'est vrai que pour d'autres points, je peux être un peu plus à droite selon ce que les gens pensent. Mais de mon côté, moi, je peux considérer qu'une personne qui reçoit que de l'aide sociale, c'est normal qu'elle ait des services gratuits, puis il faut qu'elle les ait.
Ouais.
Puis souvent, ce que je me demande, c'est où va l'argent? C'est-à-dire la pièce qui est dépensée pour les personnes handicapées. Sur cette pièce-là, il en reste combien dans les services concrets sur le terrain? Ça, je me pose des grosses questions par rapport à ça, puis j'ai défendu plusieurs dossiers parce que la bureaucratie qui est derrière tout ça est énorme et je pense que c'est ça qui prend la majeure partie du montant d'argent. Mm-hmm. Et je pense que ça nuit énormément aux services directs qui doivent être donnés aux personnes qui en ont véritablement besoin.
Donc, pour vous, c'est là qu'il faudra aller chercher l'argent, dans la bureaucratie.
Bien, je pense que oui, mm-hmm. Il y aura un ménage à faire à ce niveau-là.
Puis la gratuité, messieurs, et en 30 secondes, je suis sûr qu'on ne réussira pas, mais en 30 secondes, est-ce que la gratuité, c'est encore possible? Est-ce qu'on doit encore défendre ça, disons, comme mouvement des personnes en situation de handicap? Guillaume?
Prenons l'exemple de ma clientèle. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui bénéficient d'une gratuité de mes services. Mm-hmm. Parce qu'il y a de mes clients qui ont plus d'argent, qui payent mm-hmm. pour les choses. C'est un peu le principe du Robin des Bois.
OK.
Donc, dans ce sens-là, peut-être.
Dans ce sens-là, peut-être. Puis, Marc-André Laurier-Thibault, moi, j'entends de ce que vous venez de dire qu'au moins pour les personnes en situation de handicap, il faut que ça soit gratuit.
Bien, écoutez, quand tu n'as pas les moyens, puis tu reçois... À peine 1 000 $ par mois, je veux dire, si t'as pas de service gratuit, tu te les payes comment? Ouais. La physiothérapeute à 60-80 $ dans le privé, 100 $, c'est impossible. Donc, mm-hmm. ces gens-là sont nés dans la condition qu'ils ont. Mm-hmm. Puis la société, ben, je pense qu'on a accepté de partager pour des situations comme ça. Donc, je pense que oui, la société doit continuer à subvenir à leurs besoins.
Bien. Et donc, on n'a pas la réponse parfaite. On y revient de toute façon dans peu de temps. On sera avec Julien Racicot qui s'ajoutera à la ronde. C'est une belle question, ça. Tout doit être gratuit encore? Est-ce que c'est possible? Moi, j'espère. Mais on dirait qu'ici à table, il y a une volonté qu'un peu oui, là. Enfin, on en reparlera plus tard. Alors, la question du jour, vous le savez.
Question de la semaine. Les personnes handicapées pourraient-elles voir leurs droits mieux reconnus en devenant une force économique? Pourrait-on réussir ce que les personnes homosexuelles ont accompli avec l'argent rose?
Et c'est une grande question. Vous le savez, vous pouvez y répondre sur canalm.vusezvoix.com. Et avec nous en studio et au téléphone, des gens qui ont utilisé davantage le côté économique pour faire avancer les droits et l'inclusion. On s'ajoute à la table Julien Racicot, qui est propriétaire aussi d'une entreprise et qui est directeur d'une fondation qui s'appelle la fondation Adapte-toi. Bonjour Julien Racicot.
Bonjour Benoît.
Bonjour, content que vous soyez des nôtres.
Merci de me recevoir.
Ben, c'est un plaisir. Avant qu'on entre et continue dans la danse, je dirais, avant qu'on réponde de nouveau à la question. Vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Je sais que vous avez une entreprise, vous travaillez dans le monde immobilier, puis de l'autre côté, vous avez une fondation. Expliquez-nous un peu ce que vous faites.
En tant qu'entrepreneur, je suis propriétaire, investisseur, gestionnaire immobilier. Donc, j'ai un parc d'immeubles à logement Et j'ai un parc de mini-entreposage également.
Mm-hmm.
Donc, je gagne ma vie avec ça. Et je vous dirais que ça me permet également d'avoir assez de temps pour me consacrer bénévolement au développement de la Fondation Adapte-toi,
mm-hmm.
qui est un projet qui me tient énormément à cœur, qui tient énormément à cœur de toute l'équipe, qui également sont tous bénévoles.
Mm-hmm.
Et nous, en fait, on vient en aide aux gens qui se retrouvent paralysés du jour au lendemain suite à une lésion médulaire pour les aider dans l'adaptation de leur domicile,
mm-hmm.
et dans l'accès à des services d'aide à domicile. Parce que nous, on croit, de par mon expérience, de par d'autres expériences vécues, que quand les gens qui se retrouvent en situation d'handicap, et même n'importe quelle personne qui est en situation d'handicap, a accès aux services nécessaires qui viennent pallier aux incapacités physiques, qui viennent réduire un peu le handicap, mais ces gens-là sont tout à fait en mesure de contribuer aussi à la société,
mm-hmm.
de se développer de diverses façons, que ce soit en devenant un acteur social, en devenant employé dans une entreprise, en devenant un athlète paralympique. Il y a toutes sortes de voies qui s'offrent à ces gens-là.
Ou même faire comme vous trois, là, c'est-à-dire de vous lancer dans le monde des affaires, d'essayer de faire les choses autrement, puis en montrant vous-même qu'il est possible de réussir.
Ben oui, tout à fait. Puis la beauté de la chose, lorsqu'on est entrepreneur, qu'on a notre propre entreprise, c'est qu'on peut adapter nos conditions de travail un peu en fonction de nos aptitudes, nos capacités.
Donc, l'entrepreneuriat, pour vous, c'est une solution, ça, pour améliorer... disons, notre participation. OK.
Oui.
Ceci dit, j'entends à qui vous vous adressez, des gens qui sont blessés médulaires. Rappelons que très souvent, là, ces personnes-là sont sur des programmes assurantiels. Pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que ce n'est pas une prestation de la solidarité sociale, puis c'est une petite affaire plus payante. Je ne veux pas dire que c'est payant, c'est pas ça, mais il y a quand même plus d'argent. Est-ce que c'est ces personnes-là qu'il faudrait aider en premier?
Bien, une chose par rapport à ça. Un point là, auquel il faut faire attention,
mm-hmm.
la majorité des gens qui se retrouvent paralysés suite à une lésion de la moelle épinière,
oui.
Tous lésions confondues, donc lésions traumatiques,
mm-hmm.
qui est suite à un accident, ou lésions non traumatiques qui est due à soit une hernie, une atteinte médicale quelconque à la moelle épinière,
okay.
La majorité de ces gens-là n'ont pas d'agent payeur. Donc,
ah, non.
C'est des événements qui se retrouvent en dehors des accidents de la route ou des accidents du travail.
Ah, oh, donc je comprends. C'est là qu'il faut aider, alors.
Exactement.
OK.
Et évidemment, moi, la fondation que j'ai créée, elle vient en aide aux gens dont je connais la condition. Moi-même, mm-hmm. je suis passé par là en 1999, étant donné que c'est un accident d'auto que j'ai eu. J'ai eu le privilège d'avoir cette aide-là et j'ai vu à quel point il y avait une disparité entre les accidentés de la route, les accidentés du travail et la majorité des autres personnes qui, eux, ont à peu près aucune aide en dehors du programme PAD qui est offert à tous les gens en situation de handicap et pour l'aide à domicile, l'aide qui est offerte via les CLSC, qui est, elle aussi, nettement insuffisante.
Donc, il faut, à votre avis, pallier avec la philanthropie. Parce que c'est ce que vous faites. Vous demandez aux gens d'aller fouiller un peu plus dans leur poche parce qu'ils paient déjà de l'impôt, puis de redonner à une cause qu'ils croient juste.
Bien, les gens sont libres. Tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse aux gens, à la population générale, et également beaucoup aux gens d'affaires, au milieu des entreprises, pour solliciter leur collaboration, leur implication.
Mmh.
Et contrairement à nos impôts, bien, les gens sont libres d'aider ou de contribuer à la cause qui leur tient le plus à cœur.
Mmh.
Et en retour, bien, ils peuvent bénéficier de certains retours en impôts vu les reçus d'impôts qu'on est en mesure d'émettre.
Okay.
Mais si vous regardez les universités, les hôpitaux, toutes les grandes institutions qui font une différence importante au sein de la société, il n'y a rien de tout ce qu'on connaît actuellement qui serait possible sans la philanthropie.
Mm-hmm. Non, effectivement, c'est un apport important.
De croire que le gouvernement peut subvenir à tous ces besoins-là. De là l'importance d'avoir un volet philanthropique autant au niveau des entreprises qu'au niveau des organismes qui viennent en aide à la société.
Ceci dit, votre approche est quand même... J'enlève rien parce que vous êtes une personne d'exception. Je vous ai rencontré. Vous ouvrez beaucoup de portes dans la vie. Mais le modèle de la philanthropie, c'est un peu classique. Moi, je regarde quelqu'un comme Guillaume Parent.
Guillaume Parent, vous êtes pratiquement reconnu comme un gars de gauche parmi les conseillers en sécurité financière ou les gens avec qui vous travaillez, vos collègues.
Ben, c'est sûr que nous, moi, je fais... On m'a un peu adopté comme ambassadeur de la clientèle des personnes handicapées. On nous pose beaucoup de questions, en effet, puis ouais. On est généreux de notre temps parce qu'on veut que les personnes handicapées aient les meilleurs services financiers possibles.
Mm-hmm. Donc, écoutez, on peut en savoir plus de toute façon sur ce que vous faites, Guillaume Parent. Rappelons qu'on peut aller à l'enseigne de votre site web, finhandicap.org, c'est bien ça? .com. Ah oui! Ah, je voulais que ce soit un .org, finalement c'est un .com. Bon, c'est un beau lapsus. Donc, .com, messieurs, dames. De toute façon, on l'ajoutera évidemment sur notre site. Julien Racicot, on peut en savoir plus sur la Fondation Adapte-toi. À quelle enseigne?
Au www.fondationadapte-toi, très important,
mm-hmm.
.org.
Donc, on s'adapte, mais on se met surtout un toit sur la tête.
Ben, en ayant accès à un domicile adapté à ma oui. condition physique, c'est beaucoup plus facile par la suite de se développer en tant que personne
oui.
et de réintégrer la société.
Absolument. Donc, d'abord et avant tout, notre logis. Merci d'aider des gens à continuer de se loger en toute sécurité. Julien Racicot, je rappelle que Marc-André Laurier-Thibault était aussi avec nous, motivateur, mais il fait beaucoup de défense de droit, avouons-le, et il est étudiant en gestion. On va sûrement le voir là, quelque part dans vos chambres de commerce, messieurs. Merci.
Vous écoutez Accès libre. What are you changing? Who do you think you're changing? Each things were all stuck in our ways. It's like trying to clean the ocean. What do you think you can drain it? Well, it was poison and dry long before you came. But you can wait.
Heaven.
question de la semaine, les personnes handicapées pourraient-elles voir leurs droits mieux reconnus en devenant une force économique? Pourrait-on réussir ce que les personnes homosexuelles ont accompli avec l'argent rose?
À chaque émission, nous vous faisons découvrir un essai ou un récit à caractère historique qui est disponible en version audio grâce à Vues et Voix. Rappelons que si vous présentez une déficience visuelle ou encore si vous avez des difficultés liées à l'apprentissage, vous pouvez profiter de ces versions adaptées. Je vous invite à entendre le quatrième de couverture du titre « La guérison du monde » de l'auteur Frédéric Lenoir. C'est publié originalement chez Fayard en 2012 et c'est produit en version audio par Vues et Voix.
L'homme est-il seulement un homo economicus? Notre monde est malade? Mais la crise économique actuelle, qui polarise toutes les attentions, n'est qu'un symptôme de déséquilibre beaucoup plus profond. La crise que nous traversons est systémique. Elle touche tous les secteurs de la vie humaine. Elle est liée à des bouleversements de nos modes de vie, sans doute aussi importants que ceux advenus au néolithique, lorsque l'être humain a cessé d'être nomade pour devenir sédentaire. Il existe pourtant des voies de guérison. En m'appuyant sur des expériences concrètes, je montre l'existence d'une autre logique que celle, quantitative et mercantile, qui conduit notre monde à la catastrophe. Une logique qualitative qui privilégie le respect de la Terre et des personnes au rendement, la qualité d'être au toujours plus. Je plaide aussi pour une redécouverte éclairée des grandes valeurs universelles. La vérité, la justice, le respect, la liberté, l'amour, la beauté, afin d'éviter que l'homme moderne, mû par l'ivresse de la démesure, mais aussi par la peur et la convoitise, ne signe sa propre fin. F.L. Après avoir parlé de la sagesse personnelle dans ses précédents ouvrages, Socrate, Jésus, Bouddha, Fayard, Petit traité de vie intérieure, Plomb, L'âme du monde, Nil, Frédéric Lenoir pose ici les fondements philosophiques d'une sagesse pour notre temps, une éthique de liberté et de responsabilité qui passe par la conversion de chacun d'entre nous selon l'expression de Gandhi, soyez le changement que vous voulez dans le monde.
La guérison du monde de l'auteur Frédéric Lenoir, rendu disponible à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec par le truchement de son service québécois du livre adapté SQLA. Entendez maintenant l'avant-propos.
Peut-on être heureux dans un monde malheureux? J'ai consacré mes derniers ouvrages à la question de la sagesse personnelle, qui permet à chacun de trouver davantage de sérénité, de sens, de joie. Loin d'être égoïste, ce travail sur soi conduit nécessairement à une amélioration de la qualité de nos relations avec les autres et avec le monde. Et nous souhaitons pour le monde ce que nous nous souhaitons à nous-mêmes de meilleur, la paix et l'harmonie. Or, nous faisons tous le constat que le monde va de plus en plus mal. De tous les maux qui meurtrissent la planète et l'humanité, la plupart des politiques et des médias semblent n'en retenir qu'un, la crise économique. Et ils ne voient bien souvent qu'un unique remède miracle pour y répondre, le retour de la croissance par la relance de la consommation. Notre monde est malade. Mais la crise économique et financière actuelle n'est qu'un symptôme de déséquilibre beaucoup plus profond. Nous verrons, tout au long de cet ouvrage, que la crise du monde moderne a des racines lointaines et des ramifications multiples. Et la solution qui nous est proposée est à la fois trop partielle et parfaitement illusoire sur le long terme, puisque les ressources de la planète sont limitées, et que l'accroissement brutal de la consommation au cours des dernières décennies constitue précisément un des éléments du problème global que nous sommes censés résoudre. Pour guérir le monde, il ne suffit pas de se concentrer sur un seul symptôme et de penser que, en le traitant avec une bonne dose d'antibiotiques, tout repartira comme avant. Il convient de considérer le monde pour ce qu'il est. Un organisme complexe et, qui plus est, atteint de nombreux maux. Crise économique et financière, certes, mais aussi crise environnementale, agricole, sanitaire, crise psychologique et identitaire, crise du sens et des valeurs, crise du politique, c'est-à-dire du vivre ensemble, et cela à l'échelle de la planète. La crise que nous traversons est systémique. Elle fait système. Et il est impossible d'isoler les problèmes les uns des autres ou d'en ignorer les causes profondes et intriquées. Pour guérir le monde, il faut donc tout à la fois connaître la véritable nature de son mal et pointer les ressources dont nous disposons pour le surmonter. C'est ainsi que j'ai conçu ce livre.
J'ai rendez-vous, c'est bientôt l'heure. Je n'ai rien, même pas de fleurs. Alors je viens comme je suis, comme on est de la dernière pluie. Sur mon chemin, je vois défiler mon enfant seul à crever. Je l'entends rire dans le vent. Et moi je cours toujours pour attraper le temps. Car j'ai rendez-vous avec moi, faut que j'arrive à l'heure. Éclaircir ma voix, juste rougir un peu. Car j'ai rendez-vous avec moi, faut que j'arrive à l'heure. Mes mains tremblent, je crois que j'ai juste un peu peur. Mais je me reconnais, ça fait longtemps, 1000 ans peut-être. J'aurai sans doute un peu l'air d'une étrangère devant moi. J'aurai le cœur qui se serre, ce sera bien la première fois. Car j'ai rendez-vous avec moi, faut que j'arrive à l'heure. Mes mains tremblent, je crois que j'ai juste un peu peur.
Question de la semaine, les personnes handicapées pourraient-elles voir leurs droits mieux reconnus en devenant une force économique? Pourrait-on réussir ce que les personnes homosexuelles ont accompli avec l'argent rose?
Répondez à la question sur canalm.vuesetvoix.com. Continuez la conversation d'ailleurs en fin d'émission. On lira deux commentaires qui nous ont été laissés. Et d'ici là, ben, on se fait une rencontre mémorable, comme d'habitude, avec Aube Savard, parce qu'avec elle, on peut discuter de n'importe quoi sur la planète. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, on parle de stationnement ici et ailleurs. Bonjour, Aube Savard.
Bonjour.
Très content que vous soyez là de nouveau. Et là, on se pose la question, ben, c'est qui a le droit à la vignette de stationnement pour personnes handicapées?
Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est accordé à la personne et non au véhicule. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante.
Et ça, c'est presque comme ça partout?
Oui.
Ah, bon.
Ah oui, 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 tout à fait.
Donc, on pourrait pas être le frère d'eux utilisé, même si c'était pour la personne?
Non. Bon, non, okay. Non, tout à fait. On ne peut pas la demander pour quelqu'un d'autre.
Bon, c'est réglé tristement, mais on comprend. Est-ce qu'une vignette... Voilà. Est-ce qu'une vignette...
À moins d'être le parent d'un enfant handicapé, là, ça peut se comprendre.
Oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, on pourrait être éligible, effectivement. OK.
Exactement. Mais c'est une vignette, donc elle est accordée aux gens qui ont des difficultés motrices, certes, mais aussi ça peut être accordé pour d'autres limitations, donc des personnes qui ont un handicap visuel pour des raisons de sécurité. Si elles ont moins à se déplacer longtemps, ça réduit les chances d'avoir un accident, de se faire frapper, etc. Pour des gens qui ont des difficultés respiratoires ou des problèmes cardiaques aussi, c'est des vignettes qui peuvent être accordées pour ces personnes-là. On s'entend, là, une personne qui, par exemple, se retrouve stationnée dans le fond d'un stationnement pour le supermarché ou un grand centre d'achat, si elle a un problème cardiaque, marcher par temps froid sur une longue distance, ça peut être problématique, ou pour une personne qui a une difficulté respiratoire aussi.
Donc, on voit l'étendue des personnes qui peuvent se prémunir de cette vignette de stationnement. Mais est-ce qu'elle est, cette vignette, bien sûr, reconnue partout dans le monde?
Bien, dans beaucoup, beaucoup de pays. On peut dire à peu près que c'est internationalement. C'est sûr que bon, les pays en voie de développement, généralement, ne sont pas nécessairement rendus dans leur développement à ce niveau-là. Mais tous les pays qui sont membres de l'International Transport Forum l'acceptent. Donc, c'est tous les pays d'Europe.
Ah, oui.
Mais il y a aussi d'autres pays qui peuvent nous étonner, comme la Chine, l'Inde, le Chili, l'Argentine, le Maroc et même la Russie.
Bon. Donc, dans tous ces pays, il est possible de présenter notre vignette de stationnement puis de se prémunir d'une place pour personne en situation de handicap?
Oui, exactement.
Okay.
La seule différence avec ici, c'est qu'ici, on accroche notre vignette au rétroviseur. Là-bas, ce qui est important de faire, c'est de la mettre sur le tableau de bord du côté conducteur.
Ah, bon.
Parce que généralement, eux, ce qu'ils ont, c'est un permis, donc un bout de papier, finalement, qu'ils doivent mettre sur le rétroviseur, sur le tableau de bord.
OK. Revenons à Montréal deux instants, puis après ça, je vous assure, à vous qui nous écoutez, on va parler d'ailleurs. Ça fait du bien quand il y a de la neige. Montréal. Non, mais c'est vrai. Montréal, comment ça fonctionne, le stationnement, cette vignette
donc,
de stationnement?
Déjà, en partant à Montréal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est payant partout.
Ouais.
C'est-à-dire que partout où il y a des parcomètres, même les personnes qui ont la vignette de stationnement réservée pour personnes handicapées doivent payer les frais requis.
Bon.
Il y a quand même une petite latitude en ce sens que on peut se stationner dans une zone de stationnement sur rue qui est réservée aux résidents, mais seulement pour un maximum d'une heure. Donc, par exemple, les rues du Plateau, il y a toujours des vignettes pour les résidents. On peut se stationner quand même, nous, même si on n'est pas résident du quartier, sans aucun problème, mais pour un maximum d'une heure.
Mais c'est un peu différent à Québec, surtout pour la question des coûts.
Oui, exactement. C'est gratuit pendant 3 heures, là où il y a des parcomètres.
Ah oui.
Donc, ça fait une grosse différence sur le portefeuille.
Vraiment, oui, oui.
Et en plus, il n'y a aucune limite de temps là où la durée est limitée à 30 minutes ou plus. Donc, si, mettons, le stationnement est limité à une heure, ben pour nous, il n'y a pas de limite.
Écoutez, je ne pense pas qu'on va avoir le temps de se rendre en France, mais une chose est sûre, on peut avoir envie de se stationner quelque part en Europe. Et c'est quoi les règles générales de l'Europe? Parce qu'il existe un site web de l'Union européenne là, sur lequel on peut avoir l'info.
Tout à fait. On peut trouver beaucoup d'informations sur le site web de l'Union européenne. Mais une chose qui est encore mieux, c'est de taper sur Internet le nom d'un dépliant qui s'appelle « Carte de stationnement pour personnes handicapées dans les États membres, conditions dans les États membres ». Et ça donne toute la réglementation pour chacun des pays de l'Union européenne. Ça m'a été très utile quand j'ai voyagé 4 mois en Europe il y a 2 ans.
Bon, oui, on peut imaginer. Donc, pour les gens qui nous écoutent, vous comprenez bien, la carte de stationnement pour personnes handicapées dans les États membres, juste écrire ça, là, ça nous fait apparaître toutes sortes de choses, d'informations.
Le dépliant qui donne toutes les réglementations.
Bon, très bien, on en a pris note, puis on repointera sur notre page. Je pense qu'on a le temps d'aller en France.
Oui, génial.
Ben ça ferait du bien. Je sais pas, moi j'aime bien le Bourgogne. Vous?
Oui, c'est vraiment génial parce qu'en plus, depuis 2015, ce qui est vraiment bien en France, c'est que c'est gratuit partout.
Ah oui! Donc ça, c'est conséquent de la loi française adoptée en 2006, c'est bien ça?
Je pense que c'est 2006. Je pense pas que ce soit lié. Non? Ça fait pas partie de la loi 2005,
Oui.
Mais c'est une initiative qui s'est développée tout simplement parce que, en fait, ils se sont rendus compte que c'était un petit peu l'enfer pour quiconque de savoir si on devait payer dans telle commune ou pas.
Ben oui, bien sûr.
Comme c'est le cas ici, en fait, au Québec, on ne sait pas est-ce que c'est payé à Sherbrooke, est-ce que c'est à la Québec, est-ce que c'est à Montréal. Donc, imaginez un touriste là, qui arrive en France, ben, c'est impossible pour lui de savoir. Pareil pour un touriste qui arrive au Québec. Donc, en France, c'est gratuit partout. Mm-hmm. Il y a une exception, les terrains de stationnement qui sont munis de bordes d'entrée et de sortie.
Ah oui?
Oui, ben ça, c'est des terrains de stationnement qui sont privés. Donc, ils n'ont pas pu légiférer là-dessus, malheureusement.
OK. Et donc, pour récapituler, là, les bonnes adresses pour être informé à Montréal, sur le site de Montréal, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Hein? Pour être informé, on tape quoi, là? Stationnement Montréal?
ville.montréal.qc.ca. J'avoue, c'est pas nécessairement facile.
C'est ça, oui.
Il y a toute l'adresse complète que vous allez pouvoir trouver sur le site web de Vues et Voix.
Bon, OK. Alors, on va le mettre, on comprend, on a compris.
Oui, parce que c'est vraiment long, là.
Bon, Aube Savard, c'est toujours un grand plaisir. Merci d'être notre chroniqueuse destination chérie à l'émission.
Ben, c'est toujours un grand plaisir pour moi.
À bientôt, Aube.
À bientôt, merci.
Les rats à l'heure, laissez les rats. Les bandits à cravate, le temps qui tend trop à droite. Les G.I. Joe, je regarde en haut. J'aime les oiseaux. Les contraventions, la fric, une insomnie, la surconsommation, moisir dans le trafic, bouffer du boudin, sentir le monde en panique, les lundis matins, si pas la cupidité, un bon coup de pied au cul, l'avidité, les oignons crus, les demi-dieux, les pseudos experts de mes deux dans la télé, dans la radio, dans les journaux. J'aime les oiseaux. Les grands impuissants qui se font la...
Question de la semaine, les personnes handicapées pourraient-elles voir leurs droits mieux reconnus en devenant une force économique? Pourrait-on réussir ce que les personnes homosexuelles ont accompli avec l'argent rose?
Et on parle souvent de ce mouvement des personnes en situation de handicap, mais évidemment, il y a d'autres mouvements qui ont essayé de faire reconnaître leurs droits dans notre histoire. On pense à celui des personnes homosexuelles. Le rapprochement était, on a essayé de le faire parce que au Québec, entre autres, on dit souvent que c'est le « pink dollar », et il faut dire « argent rose », qui aurait changé les choses. Alors, est-ce que vous, vous pensez que c'est en étant ou en devenant véritablement une force économique que les personnes en situation de handicap vont davantage réussir leur inclusion, davantage voir leurs droits reconnus? Il y a des gens qui se sont exprimés sur la page. D'ailleurs, vous pouvez faire de même. Vous allez à canalem.vusezvoix.com. Il y a d'abord Marc-André qui nous écrit « L'inclusion économique serait ou sera d'abord et avant tout, comme ses autres formes, une affaire individuelle, surtout dans un monde capitaliste. De plus, le niveau de rentabilité sur le plan individuel varie grandement. » Même s'il demeure à atteindre collectivement, cet objectif, en raison de ses coûts impliqués, demeure difficile à concrétiser. Et là, il nous parle seulement des chiffres de ce que ça coûte pour une personne comme lui. C'est un peu rochant de le dire ainsi, mais c'est comme ça qu'il l'écrit. Donc, sur le plan personnel, avec mon transport adapté, mon logement social, mon soutien à domicile, jusque-là, c'est 22 000 $ par an, mes adaptations domiciliaires, d'ailleurs, ça s'élève à plus de 15 000, celles pour le travail, les coûts dans les centres de placement d'emploi Québec, et j'en passe. Du point de vue économique, je n'ai jamais été rentable. C'est quand même clair. Ma situation n'est certainement pas représentative du portrait global, soit, mais c'est la mienne. Bonne discussion. Alors, ça vaut la peine d'y penser dans notre société, au-delà de ce que ça coûte pour aider les gens, il faut peut-être avoir d'autres valeurs là, pour évaluer, parce que si c'était celle-là seulement qui nous conduisait, ça irait pas bien pour Marc-André. Pierre Nadeau, maintenant, nous écrit « Oui, l'idée est intéressante. Le régime d'épargne invalidité, donc le REI dont on parlait plus tôt avec Guillaume Parent, donc je recommence, le régime d'épargne invalidité, pourrait servir de levier pour créer quelque chose de semblable au fonds de solidarité. Il existe quelque chose du genre dans l'Ouest canadien d'ailleurs. Cependant, selon moi, on n'ira nulle part sans l'appui du milieu associatif. » Alors, il y aura d'autres commentaires. J'espère que vous continuez d'écrire sur cette page. Intervenez aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous tous et toutes qui avez répondu. Et pour avoir plus d'informations sur les intervenants qui sont venus à l'émission, vous migrez là, si vous êtes sur le câble, vous migrez vers Vues et Voix, donc sur le web, et vous allez repérer les intervenants, quelques liens utiles pour vous aider à continuer la réflexion ou même pour accéder à des services. Je pense entre autres à votre stationnement que vous savez possible à travers le monde grâce à Hope Safar. Permettez-moi aussi de saluer l'équipe. Cette émission est impossible grâce aux soins de Anne-Laure Janson à la recherche et à toute autre tâche connexe. Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Ici Benoît Racette. On se parle bien sûr encore une fois la semaine prochaine, mais j'ai envie de vous dire, faut pas virer trop à droite, parce que sinon les personnes aveugles y ont beaucoup de difficultés et donc ils peuvent pas faire comme nous tous un véritable accès libre. À bientôt tout le monde.